Vous pouvez me suivre, je laisse mettre ma main sur mon épaule.
Okay.
Je suis aussi avec le bandeau,
okay.
Donc je ne vous vois pas.
Ouais.
Vous rentrez dans une petite pièce qui fait environ 40 mètres carrés, quelque chose comme ça. Là, ouais, juste là, vous avez sur votre gauche, votre droite,
ouais.
Moi, ma droite et ma gauche, la sculpture, enfin la terre d'abord, que je vais travailler, voilà.
Ah,
la sculpture qui est là, qui est donc là. Vraiment la structure de base où tout est posé un petit peu sans vous connaître,
mm-hmm.
donc, mais juste pour avoir des repères.
Mm-hmm.
Et en continuant un petit peu, vous avez là la chaise sur laquelle vous allez pouvoir vous asseoir. Alors attendez, que je vous la trouve.
C'est
là, il y a une estrade avec une chaise,
okay.
Exactement. Et donc c'est assez haut de plafond, c'est assez lumineux,
mm-hmm.
c'est... C'est entouré d'œuvres autour de vous, de livres, de posters, etc. etc. Donc il y a pas beaucoup de place,
ouais.
c'est bien rempli pour vous donner une petite idée. Il y a un bureau, il y a une petite terrasse.
Ouais.
Donc si vous entendez quelques oiseaux, c'est normal.
Okay.
Et la sculpture, donc juste à côté de vous, tournée, votre visage est tourné du même côté que le visage de la sculpture.
Ok.
Et je vais donc, au fur et à mesure, toucher votre visage,
mm-hmm.
pour ensuite venir toucher la sculpture et essayer de prendre mes marques.
Oui.
Et puis, sachez aussi que la partie, tout ce que vous voulez me dire, en fait, me permet aussi de sculpter votre histoire, vos traits et votre histoire à travers vos traits sur la sculpture.
Ok.
Et du coup, je vais à chaque fois me rincer un petit peu les mains, mais bon, il y a un petit risque quand même voilà, qu'elles soient soit avec un peu de terre, soit avec un peu de poussière, soit un peu mouillées.
Okay.
Mais c'est un matériau complètement naturel, donc il n'y a aucun souci de
okay.
Si,
ouais.
À aucun moment, il y a un souci avec ça.
Ok, oui, je me dirai.
Je me rince les mains directement.
C'est bon pour moi.
Alors, vous permettez que je touche le visage.
Là, j'ai eu 27 ans il y a un mois.
Ouais.
Je suis sénégalaise, donc je suis née là-bas, au Sénégal, à Dakar, j'ai grandi là-bas, j'ai vu que. Je peux dire, non, pas j'ai vécu normalement, mais en quelque sorte sans handicap, j'ai vécu sans handicap jusqu'à mes 17 ans. Et un jour, je suis tombée malade, et après, au bout d'un mois, j'ai perdu la vue. Et après, on a essayé de me soigner là-bas et ils n'ont pas réussi. Donc, on est venu en France avec ma mère et on est arrivé en 2013. Et après, on a fait le tour des hôpitaux ici à Paris et les médecins ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Et ma mère a décidé qu'on allait rester en France parce que on pouvait, avec un handicap, c'est impossible de... Pas impossible, mais on n'a pas grand-chose à faire avec un handicap au Sénégal. Donc je suis restée ici, j'ai fait une rééducation dans un centre de formation, dans un centre de rééducation, pardon. Et après, on m'a parlé de l'INJA parce que je voulais quand même... Quand j'ai perdu la vue, j'étais en première. Donc je voulais quand même avoir un bac et faire des études pour pouvoir travailler. Et je me suis inscrite à l'INJA en 2016. Et je suis restée là-bas en première, en terminale, donc 2 ans. Et après, je suis allée, là en ce moment, je suis à la fac, à Nanterre. Et je termine ma licence. J'aime beaucoup les langues. Et il n'y avait rien d'autre qui m'attirait.
Ah, c'est une bonne raison, ça.
Oui, ça aussi. Et même là, je vais changer un master, je vais pas du tout faire ça. Je vais faire un master en relations internationales, normal, si on m'accepte. Il y a le master à la Sorbonne Nouvelle, il y a une spécialisation de l'Union Européenne, donc je vais apprendre comment l'Union Européenne s'est formée, pourquoi, et je vais apprendre la politique des différents pays de l'Union Européenne, des accords qu'il y a entre les différents pays et le reste du monde, et des trucs comme ça. En fait, ça me permet de connaître en quelque sorte le droit de beaucoup de pays, la politique de ces pays-là et comment ça se passe au niveau économique et tout. Et pour après peut-être travailler dans des ONG ou des associations où peut-être même au Parlement européen ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas envie de travailler au Parlement européen. Mon projet vraiment c'est de travailler à l'UNICEF pour aider ceux qui n'ont pas de chance. J'aimerais bien, si possible, le faire quelque part en Afrique, mais je ne sais pas où exactement. Mais déjà, je sais que je ne serai pas sur le terrain parce que c'est compliqué. Je ne sais pas, j'ai toujours aimé aider les gens. Ça m'a toujours intéressée. Et après, j'ai vu aussi des documentaires où j'ai lu des articles qui parlaient de la misère des enfants ou des familles. Et aussi, il y a pas mal de guerres encore dans le monde, de conflits, et il y a beaucoup d'enfants qui souffrent énormément. Et je me dis que moi j'ai eu la chance de, malgré mon handicap, d'être venue dans un pays où on m'accepte tel que je suis et de pouvoir vivre ma vie comme si j'avais pas de handicap. Je sais que tous les enfants que je vais aider n'auront pas forcément de handicap, mais j'aimerais bien quand même qu'ils aient un peu de chance aussi dans leur vie.
Ça t'a permis de développer d'autres sens ?
Peut-être, oui. Mais parce que l'odorat, je sens une odeur sur cinq.
Ah oui.
Le goût, je peux manger un truc sans savoir ce que j'ai mangé.
C'est vrai ? T'as pas une colite, c'est pas ça.
Un jour, j'ai confondu, c'était quoi ? Un abricot et une tomate.
Mais c'est pas mal.
J'ai coupé l'abricot moi-même. Hein. Mais je me suis dit, ah, j'arrive, mais je sens, mais pourquoi il y a un noyau ? Je me suis dit, mais comment on est dans un monde où il y a tellement d'OGM ? Peut-être qu'on a réussi à faire des tomates avec des noyaux. J'ai réussi à me convaincre que voilà. Et donc, j'ai fait mon sandwich tranquille. Et au moment de manger, je me suis dit, mais ah, en fait, c'est pas une tomate, ça. Ouais, mais j'entends très bien, par contre. Ça, ouais. J'ai trois frères et une sœur, on est cinq. Et il y a ma sœur qui était qui est en France depuis 2010 pour ses études, et là maintenant elle travaille ici et tout. Et mes trois frères, ils sont au Sénégal. Et là en ce moment, je suis avec ma mère et ma sœur qui a eu un bébé il y a 4 mois. Donc on vit ensemble et ça va, ça se passe plutôt bien. Mais donc mes frères, je les ai pas vus depuis janvier 2020. Ah, et mon père aussi.
Ah, votre père aussi ?
Ah, il est au Sénégal. Mes parents sont séparés depuis, je pense, ma naissance.
Et comment ça a changé votre rapport au monde alors de ce moment, de cette année de vos 17 ans ?
D'avoir perdu la vue ?
Ouais.
Au début, je sais pas, au début, je voulais juste mourir parce que je me disais que j'aurais plus du tout de vie. Et après, ben, justement, c'est le fait d'être venue en France et d'avoir eu toutes les opportunités que j'ai eues ici. Ce sont toutes ces opportunités-là qui m'ont vraiment aidée. Et là, maintenant, je me dis, certes, j'ai un handicap, mais je suis comme tout le monde. De toute façon, chacun a ses problèmes et ça ne va pas m'empêcher de vivre. Donc, j'essaie de vivre ma vie à fond. J'essaie de faire tout ce qu'il est possible de faire, par exemple, de voyager, de rencontrer des gens, de sortir, des trucs dont... Bah, déjà là, de pouvoir aussi étudier, travailler... Tout ça, oui.
J'hésite. Mais comme vous avez un petit visage, j'ai un moment d'hésitation sur est-ce que j'enlève de la masse. Où est-ce que j'en rajoute là ? Et comment ça s'est passé alors pour vos parents, cette énorme épreuve ?
Déjà, ça a été très compliqué pour les deux. Je pense que ça a été encore plus compliqué pour ma mère vu que je vivais avec elle au Sénégal. Et après, quand elle est venue en France, ben, elle a tout essayé de trouver au Sénégal, ses enfants, et tout pour venir avec moi. Pour qu'on soit là, et quand on est arrivé, on a énormément galéré et n'empêche, il a toujours été avec moi. Ça a été très compliqué pour elle, mais je pense que là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Elles se sont un peu prêtes à me laisser faire des trucs toutes seules parce que tellement elle a envie de me protéger, elle pense que je suis trop fragile, elle ne veut rien me laisser faire toute seule. Elle est tombée enceinte très jeune, à 19 ans, je pense. Donc, elle n'a pas pu faire des études supérieures. Après, elle s'est débrouillée, à travailler à gauche, à droite et tout. Et aussi, après, Après, quand elle s'est séparée de mon père, c'est elle qui a tout fait pour mes frères et moi. Elle payait l'école, elle faisait tout, elle me tenait à manger des trucs, autant. Et jusqu'à ce que je perde la vue. Et après, elle a tout laissé tomber pour venir avec mes jeunes autres. Parfois, je suis méchante avec elle, mais après, voilà, ben, je regrette.
Comme tous les enfants. L'important, c'est de lui montrer de temps en temps que vous savez tout ça.
Mais ça va, elle veut sortir. C'est juste que mon sort, elle est là, elle m'appelle. Et comme j'ai des problèmes de migraine aussi, elle m'appelle chaque 30 secondes pour voir si j'ai pas mal à la tête ou des trucs comme ça.
Ça vous prend tous les jours ou toutes les semaines?
Ça dépend. Parfois, pendant une période, je peux avoir mal à la tête, mais tous les jours. Mais parfois, je peux rester un mois sans avoir.
Ils savent pas, du coup, les médecins, si c'est lié à...
Non. Et par rapport à mon père, je pense que lui, ça va dans l'ensemble. Ça va diminuer beaucoup.
Il a suivi de loin autant qu'il pouvait.
Oui. Et quand je suis retournée pour la première fois au Sénégal, après mon arrivée ici, il me suivait mais partout. mes frères, eux aussi, ça va. Ils m'ont beaucoup. Quand j'étais là-bas, avant de venir en France, ils m'ont énormément aidé.
Vous êtes une famille super aimée?
Oui, ça va.
Wow. Okay. Hop là, je suis là. Merci. Ouais. Je reprends deux, trois mesures. Bon, approche de vos yeux, attention. Et vous savez déjà, justement. Si vous voudriez faire un métier qui a quelque chose à voir avec le handicap visuel, pas du tout.
J'y pense pas trop, non. Je sais pas, mais je pense pas, non. Mais peut-être que, par exemple, peut-être que si je travaille dans un ministère ici en France, je pourrais. Si je peux choisir, je pourrais choisir le ministère qui s'occupe des personnes handicapées pour apporter en quelque sorte mon expérience. J'aimerais bien quand même participer à ça à travers des associations et tout. Parce qu'un jour, c'était au journal, j'ai entendu, ils disaient que je pense qu'il n'y a que 25% des personnes handicapées qui travaillent en France. Et c'est dommage.
Qu'est-ce qui vous manque le plus alors du Sénégal?
Mes amis, je pense, ma famille. Ça m'a changé le handicap parce qu'à 17 ans, j'étais une adolescente, mais vraiment une adolescente. J'ai été obligée de, en quelque sorte, de grandir. Si j'avais pas changé, j'allais peut-être rien faire de ma vie, j'allais me dire que j'allais être fataliste et dire ça m'est arrivé, donc ça veut dire que je ne dois rien faire. Je sais pas si je pourrais dire ça, mais je pense vraiment que le fait d'être tombée malade, d'être handicapée, c'est. C'est peut-être une des meilleures choses qui me sont arrivées. Ça m'a permis de changer, quoi. Parce que j'avais, à 17 ans, je pense que j'avais aucune ambition et je voulais même pas. Les gens à mon âge au Sénégal, dans l'école où j'étais à 17 ans, tout le monde se préparait après pour aller faire le bac et après venir en France. Moi, je voulais même pas venir en France. Je voulais carrément rester au Sénégal et aller faire des études juste pour faire des études. Déjà, je pense que là, j'ai déjà eu deux enfants. Mais je passais toute ma vie avec les garçons à 17 ans. Et malheureusement, au Sénégal, quand on tombe enceinte jeune et avant le mariage, on a tendance à être marié avec cette personne-là. Il y a une école pour personnes non-voyante, mais ça c'était pas car c'est la tièce, mais après à part ça, là j'ai entendu dire apparemment il y a un centre pour les autistes, mais c'est pas une école, c'est un centre, et à part ça c'est la seule chose que j'ai entendue. Et là, par exemple, je suis en contact avec la fille d'un ami à mon père qui, elle aussi, est non-voyante. Elle veut venir en France ou aller dans un autre pays en Europe parce qu'elle a dit qu'elle en a marre d'être au Sénégal, que si elle reste là-bas, elle n'aura pas de vie, elle pourra rien faire de sa vie à pas rester chez elle.
Je peux me mettre avec toi pour toucher avec toi pour voir où est-ce que tu touches.
Voilà, c'est les oreilles.
Ok.
Là, on a le top. Hein. Tu enlèves un truc. Il y a les yeux.
Tu peux sculpter ce que tu veux.
Là, c'est le nez.
Ouais.
Ensuite, là, ma bouche.
Les cheveux, c'est. Tu vois, j'ai pas touché du tout encore. Je sais pas comment je vais faire. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je sais pas, j'aime bien, ouais. Je trouve ça, ouais. Moi, j'aime beaucoup les oreilles.
Après, t'as des toutes petites oreilles, donc peut-être elles sont encore trop loin pour que je vérifie ça demain. Parce que à l'échelle de la tête, tu vois, je me suis mis, regarde, aussi.
Je pense qu'à l'échelle de la tête, ça va quand même.
Ouais.
Moi, je trouve ça bien.
Quoi. Ouais. Mmh. Ah, bon, cool.
Okay. Mais là, les yeux, ils sont censés être fermés.
Bah ouais,
okay.
Ouais, parce qu'en fait, puisque je vous sculpte tous les modèles, hein, je veux dire, et que je touche vos yeux, vous n'allez pas les
ouvrir,
je vais faire toucher les yeux fermés. Donc en fait, je vais pas aller faire quelque chose que je touche pas, donc je fais les yeux fermés.
Okay.
Parce que toi, d'ailleurs, tu es plutôt aux yeux ouverts ou aux yeux fermés, je ne sais même pas. Fermé.
Ah non, pardon, ouvert, pardon.
Au quotidien, tu gardes les yeux ouverts. Et bah, et la bouche, ouais, t'as une toute petite bouche aussi.
Ah oui.
J'espère, hein, que c'est juste un truc d'échelle, faut que je revérifie ça avec le recul demain. Est-ce que j'ai pas fait trop, même le nez trop large, tu vois, il est possible que ce soit trop large. Non, je te souhaite. Ah, il est trop large. Mais...
Ah ouais?
Non? Attends, est-ce que je suis... Parce que tout est petit. Ouais, c'est ça, c'est en rapport en fait. On est en rapport que ça. J'ai quand même fait un grand visage. T'as agrandi XXL. C'est tellement frustrant, j'ai tellement envie d'ouvrir.
C'est bientôt l'expo.
Ouais, ouais. Pas là où je pourrais tout de suite, mais c'est bientôt la fin de l'expo. Tu vois, il y a un truc sur le nez, je m'en rends compte. Donc, du coup, ça est beaucoup plus droit que ça. Donc, je rajoute là. Tac.
On peut dire, j'ai deux religions. La famille de mon père, c'est les catholiques. Et la famille de ma mère, c'est les musulmans. Et comme on a été. Mes frères et ma sœur et moi, comme on a été éduqués par ma mère, donc on a pris la religion de ma mère. Mais je connais assez bien les deux religions. Ben, l'islam et. Le christianisme et côté catholique. J'ai pas vraiment choisi et on me l'a pas non plus imposé, j'ai grandi avec, donc j'ai toujours continué.
Est-ce que tu fais le ramadan en ce moment? Ton père a jamais cherché à imposer la sienne?
Non, non. Chaque religion a sa manière de voir les choses et tout, et donc ça nous permet de, enfin, d'avoir deux manières justement de voir et peut-être de mieux comprendre ce qui se passe. Et ben justement, ça me permet de ne pas juger les autres religions. Et, ou les gens qui disent ne pas croire en Dieu. Ou... Il y en a beaucoup au Sénégal, des gens qui ont des parents avec des religions.
C'est vrai? C'est pas un problème là-bas?
Normalement, dans la religion musulmane, une femme musulmane ne doit pas épouser un homme non musulman. Mais il y en a beaucoup qui rencontrent des hommes et après il y a des hommes qui décident de se convertir et d'autres pas. Et moi par exemple dans le cas de mes parents, mon père il s'est pas converti. Et je sais que par exemple mon frère aîné, je pense que c'est le seul, il a fait sa communion je pense. Mais après lui après il s'est converti à l'islam. Et par rapport aux autres, ben, moi j'ai beaucoup d'amis j'ai beaucoup d'amis qui ont par exemple un père musulman et une mère catholique. Je faisais que le ramadan. Et après, je me suis mise à pratiquer un peu plus. disons quand j'ai perdu la vue et tout.
Ça t'a beaucoup aidé?
Oui, ça m'a aidé quand même. Et même, je me souviens quand j'étais à l'hôpital et même quand je n'étais pas à vue, il y avait un prêtre qui venait tout le temps me voir prier pour moi. Mmh. Ça m'a beaucoup aidé. J'aime bien faire mes prières à l'heure et je me sens libérée après avoir prié. Au Sénégal, c'est un peu culturel quand même. Disons, si on est 100 000, 99 500 croient en Dieu. Il y a d'autres qui se disent athées, mais je pense qu'il le dit juste pour le dire.
Je vais revenir te voir pour refaire le point.
Ok.
Je regarde juste un truc. Je n'ai jamais repéré ça tout à l'heure sur le menton.
Là, j'ai pour projet d'aller en Angleterre parce que je vais aller à Manchester. Pour aller, parce que j'adore le foot. Et mon équipe préférée, c'est Manchester United. Et je veux donc aller au stade de Manchester United.
Attends, je me tire le dos un tout petit peu. Oui, c'est pour ça que je descends. T'entends, ça craque.
Hein?
Ouais. Je ne suis pas étirée avant, mais c'est une bêtise. Parce qu'au bout d'un certain temps, comme tu es en tension sur le haut des épaules, ça finit par faire mal. Au.
Là, je suis en train d'essayer de voir si je peux sentir le lume de ma main, mais j'y arrive pas.
Ah, en creux, c'est vrai.
Le fait d'être devenue non-voyante m'a permis et me permet jusqu'à présent peut-être d'avoir tout ce que j'ai là en ce moment. Si j'avais rien, peut-être qu'il me serait arrivé autre chose de pire, alors que là, ben, certes, j'ai perdu la vue, mais j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire. Je fais mes cours. Je vis avec ma mère et ma sœur et mon neveu. J'ai mes amis, j'ai ma famille, voilà. J'ai l'essentiel en tout cas. Et une personne qui est heureuse, c'est une personne qui ne manque de rien. Je ne parle pas de par rapport à l'argent ou matériellement, mais une personne qui se sent bien entourée et qui a toutes les choses qu'elle considère être importantes pour elle à ses côtés. Et moi, je considère que ça va, j'ai ça quand même. Je me plains pas du tout dans ma vie. Et pour moi, le bonheur, ça rejoint ça aussi. Je sais pas, je pense que je dirais à tout le monde la même chose, d'essayer de profiter de la vie. Puis voilà. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et surtout, d'arrêter de se plaindre.
Ou de se trouver parfait.
Oui, aussi. Ou même de se trouver imparfait aussi.
Ouais, t'as raison. Surtout ça. Conscience que c'est un super pouvoir de pouvoir comprendre.
Oui, il faut juste s'habituer. Ouais, là par exemple, je peux choisir la vitesse de lecture pour le livre. Là c'est à 1. Mais par exemple, là j'ai diminué et là ça. Parce que là, si je laisse ça comme ça tout le temps, au bout d'un moment, je pourrais pas, ça va être trop chiant. Moi je la mets à 75%.
75% de vitesse.
Ouais.
Et 100% c'est quoi alors, c'est...
Ça par contre je peux pas, 100% c'est trop rapide. Non, pour moi ça c'est trop rapide.
Ah, on est d'accord.
Ouais.
70%, 75%.
Ouais. Pardon, c'est tes cheveux.
Écoute, je vais venir, Anna, et venir toucher la sculpture. Hein, c'est...
Ok.
T'es dessus?
Non.
Ah,
là, oui. Tu vois, regarde, le lobe est là.
Mm-hmm.
Donc, on le sent là. Par rapport à l'autre côté.
Mm-hmm. C'est vrai que là, il n'y a rien.
Tu voudrais que je le marque
différemment? Non, c'est bon.
Ah bon, les yeux, mais ça va. Et même la bouche aussi. Là, j'ai en train de toucher le front.
Ok, j'ai ta validation.
Ça va.
D'accord.
Ouais. Pour moi, c'est bien.
Attends, je vais juste. En rajoutant les cheveux, j'ai déjà mis de la matière. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai visé trop.
Pardon, non, c'est bon, j'avais les yeux fermés.
Excuse-moi.